おかしいおかしい。
Il est 19h15, Kinshasa, dialogue entre Congolais, Jean-Claude Toumbakamanga.
Plus de 6 milliards de dollars pour deux protocoles d'accord signés entre la Chine et la République démocratique du Congo. Quelles sont les clauses de ces deux protocoles d'accord? Que gagneront les deux pays? Avec Katsuan Guiné de Boutembo, dans le Nord Kivu, c'était l'auditeur, il estime que la Chine investit beaucoup pour le développement de la RDC, mais gare aux dirigeants dans la gestion, car, dit-il, c'est notre dernière chance. Emmanuel de Matadi, dans le Bas-Congo, pense que la coopération Chine-RDC ne peut qu'aboutir au désavantage de la population congolaise. Quant à Zakwani de Kindu, dans le Maniema, il soutient cet accord et veut voir sa concrétisation, car sans cela, ajoute-t-il, il n'y aura pas de développement. Les réponses à vos préoccupations avec, pour inviter ce soir, Pierre Lumbi au Congo, ministre d'État chargé des travaux publics et infrastructures. Nous avons aussi José Ngbanda Mananga, député national et rapporteur adjoint de la commission relations extérieures de l'Assemblée nationale. Nous avons enfin le professeur Donatien Kabanga, il est professeur d'économie aux facultés catholiques de Kinshasa. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h hors de Kinshasa au 099-999-222.
Plus de 6 milliards de dollars américains pour deux protocoles d'accord signés entre la Chine et la République démocratique du Congo. Quelles sont les clauses de ces deux protocoles d'accord signés lundi 21 septembre dernier à Kinshasa? Cette question préoccupe le député national MLC Ndamdam Ombel. Il le dit au téléphone de Claude Kanza.
Alors que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'ère de la démocratie, l'ère de l'état de droit et l'ère de la transparence, c'est que ceux qui sont au pouvoir, les animateurs actuels, ne veulent pas nous donner tous les contours des accords conclus. Pas tous les contours, je voudrais dire, c'est-à-dire l'étendue de l'accord. C'est-à-dire l'accord concerne quoi? Qui a signé cet accord? Qui engage la République démocratique du Congo, d'une part? Qui engage la République démocratique de la Chine, d'autre part? De deux, la durée de cet accord, l'étendue de l'application de cet accord. Le domaine minier, c'est vague. On peut dire, c'est tel domaine, ça se limite simplement à l'exploitation des minéraux tel ou tel, mais on ne peut pas dire simplement le domaine minier. Alors, c'est cela qui fait que, lorsqu'on ne veut pas donner l'explication, mais ça donne l'impression qu'il y a quelque chose que l'on veut cacher à la population et aux citoyens congolais. Alors, si c'est le cas, mais ça devient, alors ça pose des problèmes. Parce que même si nous devons engager les générations futures, me permettez que nous, les parents, nous puissions connaître à quoi ils sont engagés. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a une commission qui est chargée de revisiter des contrats dits léonins. Mais qui vous dit que le contrat actuel n'est pas léonin?
Au sujet des mêmes protocoles d'accord, un autre député national, lui de la majorité présidentielle, s'en prend au Fonds monétaire international. Le député national Bahati Lukwebo, qui est questeur au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, dénonce ce qu'il qualifie d'immixtion du Fonds monétaire international au sujet de ces protocoles entre la RDC et la Chine. On écoute encore une fois au micro de Claude Kanza.
Nous avons également estimé que c'est de l'immixtion et même un esprit de colonialisme que de chercher à obtenir la copie de l'accord de prêt entre la RDC et la Chine. Donc, cela montre clairement que ces institutions veulent nous maintenir dans la pauvreté au moment où nous avons une voie qui se trace pour que nous puissions avoir de quoi financer les infrastructures.
Si le Fonds monétaire international voudrait obtenir une copie des deux protocoles d'accord signés entre la RDC et la Chine, qu'est-ce qui vous gêne?
Rien ne nous gêne parce qu'il n'y a rien à cacher. D'ailleurs, c'était signé en public. Mais ce qui me gêne, c'est quand ils parlent, c'est comme si, en fait, ils en faisaient un problème. C'est comme s'ils n'étaient pas contents que la RDC ait trouvé d'autres sources de financement. Et pour le peuple congolais, en tout cas, nous pensons que ça, c'est une façon claire de démontrer qu'ils n'ont jamais voulu notre bonheur, mais plutôt notre asservissement.
Mais qu'a dit le Fonds monétaire international à propos de ces deux protocoles d'accord?
Mais je ne sais pas, parce qu'ils ont demandé ça au ministère du budget. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils ont la copie, nous estimons qu'ils n'ont rien à dire sur cet accord, parce que c'est un accord de souveraineté entre la RDC et la Chine.
Voilà, nous avons dans cette émission le député national José Ngbanda Mananga. Vous êtes député de l'opposition, vous êtes aussi rapporteur adjoint de la commission relations extérieures de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi l'un de vos collègues députés nationaux. Il s'agit d'un homme d'Aombel, lui qui dit qu'il voudrait bien connaître tous les contours de ces protocoles. Et vous, est-ce que vous avez des problèmes autour de ces protocoles au niveau du contenu?
Oui, effectivement, je crois que ces inquiétudes sont fondées parce que, étant donné que cet accord engage la République démocratique du Congo en tant que parlementaire, je crois que nous devrions, en principe, prendre connaissance de ce protocole d'accord, car bien même que le moment venu, le gouvernement devra nous saisir pour que nous puissions par une loi autoriser la ratification de cet accord. Mais parce qu'il y a vraiment des intérêts qui sont en jeu, c'est l'avenir du pays pour éviter que les générations futures ne puissent payer des dettes qui n'ont jamais été connues, discutées à l'avance par les élus. Je crois qu'il était important que nous puissions effectivement prendre connaissance du contenu de cet accord avant que le gouvernement ne s'empresse à le signer.
Alors, monsieur le ministre d'État en charge des travaux publics et infrastructures, Pierre Lumbi, vous avez suivi, il y a quelques problèmes au niveau des contours de ces contenus. C'est quoi les contours de ces protocoles d'accord?
Écoutez, d'abord, j'estime qu'il n'y a pas de problème. Le débat qui est soulevé par cet accord est un débat sain, démocratique, et qui va certainement enrichir la suite du processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'estime tout simplement que la signature d'un accord relève de l'exécutif. Mais comme tout le monde le sait, lorsque le gouvernement a signé un accord de cette nature, il est obligé de pouvoir le renvoyer au Parlement afin de recevoir ratification. Cela va être fait. En attendant, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent rester justement dans la discrétion du gouvernement pour le respect du Parlement. Parce que vous comprendrez que avant que le Parlement ne soit saisi officiellement, nous puissions quand même garder une certaine réserve, une certaine discrétion pour certains éléments. C'est important. Donc, pour nous, le débat est très sain. Nous avons signé cet accord-là au grand air, donc il n'y a pas de cachotterie. Nous n'avons pas caché qu'on a signé l'accord. On vit au-dessus de tout le monde. Ça a soulevé un débat que nous-mêmes nous avons souhaité sur le plan national, sur le plan international, même au niveau de la Chine.
Donc, si on vous comprend, monsieur le ministre des Travaux publics, Pierre Lumbi, vous reconnaissez quelque part qu'il y a effectivement des contours qui ne doivent pas être connus maintenant. Il faut attendre que l'Assemblée ou le Parlement ratifie ces protocoles d'accord.
Vous savez, tout d'abord, il faut que nous puissions nous dire un certain nombre de choses. Quels sont les principes qui sous-tendent cet accord? Cet accord est sous-tendu par un certain nombre de principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement chinois, avec les institutions financières chinoises et avec un certain nombre des grandes entreprises chinoises qui sont impliqués ou qui seront impliqués dans les travaux qui seront à faire.
Ça peut avoir une idée de...
Le premier principe, il y en a 5 ou 6. Le premier principe, c'est que c'est le principe de gagnant-gagnant. Il faut que la République démocratique de Chine gagne et il faut que la République démocratique du Congo gagne, et il faut que la République de Chine y gagne. Le deuxième principe, étant donné qu'il s'agit des grands travaux, il faut que cet accord-là génère des emplois pour les Congolais, mais aussi pour les Chinois. Deuxième grand principe, il faut que les grandes entreprises qui vont être impliquées dans la réalisation de ces travaux travaillent en joint venture ou en sous-traitance avec les entreprises congolaises. Quatrième principe, il faut absolument que les entreprises chinoises puissent opérer le transfert des technologies assorti d'un programme de formation de nos ingénieurs, techniciens et cadres qui vont travailler dans le cadre de ces grands travaux. Cinquième principe, il faut que ces entreprises, et les entreprises chinoises, et les entreprises congolaises, puissent intégrer la dimension environnementale. Et sixième principe, il faut que les entreprises qui vont travailler chez nous puissent intégrer la dimension locale des localités où elles vont travailler.
Monsieur le ministre, on va y revenir parce qu'on va aborder dans la deuxième partie, on verra que gagnent la RDC et la Chine. Vous avez peut-être un peu anticipé, mais c'est bon. Déjà, vous avez donné les principes de ces protocoles d'accord. Alors, pour vous, professeur Donatien Kabanga, professeur d'économie aux facultés catholiques de Kinshasa, déjà au niveau du contenu, parce que ce contenu, les clauses même de ce protocole d'accord, vous avez suivi le député national José Mbanda qui se faisait un peu de soucis parce qu'il ne maîtrisait pas les contours de ce protocole d'accord. Le ministre vient déjà de dire qu'il y a des réserves parce qu'il faut que le Parlement ratifie, mais déjà il donne les cinq principes qui ont dirigé ces protocoles d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau de discussion?
Oui, je sais que le montant de plus de 6 milliards de dollars constitue un ballon d'oxygène pour la politique du gouvernement qui en attendait. Qui attend jusqu'à là, je crois, 14,7 milliards de dollars pour financer ce qu'on peut appeler le programme d'action prioritaire. Mais néanmoins, il y a une préoccupation au niveau du public, même au niveau du Parlement, les membres du Parlement de l'opposition, le cas de l'honorable
Gwanda,
donc non, l'autre honorable qui est un peu inquiet, à cause de clauses qu'il trouve encore un peu ambiguë, où il n'y a pas de transparence. Son Excellence vient tantôt de se justifier, mais je demande à l'Excellence, il faudra du moins tenir compte de la préoccupation de la population, parce que c'est prêt, et quand on regarde les conditions, les termes, qui restent, qui ne sont pas jusqu'à là clairs, ça pose plus de préoccupations que de satisfactions. Pourquoi je m'explique? Il faut regarder le problème au niveau des deux dimensions. Nous sortons dans un programme, le programme PEG et le programme le PRC. Comme vous le savez, ce sont
des gouvernements
qui n'ont pas donné de bons résultats. Et quand on trouve les gens qui ont animé ce programme, pour la plupart, ce sont des personnes, des personnalités qui se retrouvent dans les institutions de la Troisième République. Voilà à quel niveau les prêts de 6 milliards posent beaucoup plus d'interrogations et de préoccupations que de satisfactions.
Quel type de préoccupation? Soyez un peu plus concis.
Préoccupation, l'honorable l'a soulevé tantôt, on connaît les habitudes, ce n'est pas la première fois que la RDC a recouru à un emprunt extérieur. Avant qu'on amorce la Troisième République, déjà au niveau de la Deuxième République, la RDC avait déjà un prêt de 14 milliards de dollars, et la plupart de ces 14 milliards de dollars à financer ce qu'on utilise peut-être dans le vocabulaire de la Banque mondiale ou bien de la communauté internationale, ce qu'on appelle les éléphants blancs. Vous connaissez ce que ça a donné comme résultat.
Vous voulez parler des grands projets.
Le grand projet, oui, c'est-à-dire que ce sont des projets qui ont été mal négociés, qui ont été mal appliqués. Ce sont des projets qui ne se justifiaient pas sur le plan économique, qui n'avaient qu'une justification politique. Et c'est peut-être à cause des antécédents que ça pose des problèmes au niveau de la population, qui veut peut-être aussi qu'il y ait une transparence, que ces montants-là soient affectés dans des projets productifs, qu'il n'y ait pas de précipitation. Quand il y a un projet, il faut mettre en place une politique de planification pour dire qu'est-ce qu'on va faire quoi, où est-ce qu'on va affecter cet argent, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il faut mettre l'accent toujours sur ce que nous appelons le résultat attendu.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a des objectifs globaux et il faut qu'il y ait des indicateurs qui peuvent nous montrer que plus tard, voilà ce qu'on peut avoir comme résultat.
Voilà, professeur Donatien Kabanga de la faculté, des facultés catholiques de Kinshasa, vous êtes professeur d'économie. Donc, pour vous, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut de la planification, il ne faut pas trop se précipiter dans l'exécution de ce projet. Je rappelle aux auditeurs que vous suivez Radio Capi, c'est Dialogue entre Congolais, plus de 6 milliards de dollars américains pour deux protocoles d'accord signés entre la Chine et la RDC, c'est le thème de cette émission. Quelles sont les clauses de ces deux protocoles d'accord? Que gagneront les deux pays, la République démocratique du Congo et la Chine? Nous recevons Pierre Lumbi au Congo, ministre d'État chargé des travaux publics et infrastructures, José Ngwanda Mananga, député national et rapporteur adjoint de la Commission Relations extérieures de l'Assemblée nationale. Il est député national de l'opposition. Nous avons aussi le professeur Donatien Kabanga. Alors, José Ngwanda, vous avez suivi les réponses du ministre Pierre Lumbi. Est-ce que vous êtes satisfait, ne fût-ce qu'au niveau des contours, parce que vous étiez un peu inquiet?
Disons, je crois que vous-même, vous avez suivi, le ministre a reconnu qu'il y a les principes sont pour la consommation de la population, mais il y a des choses qui ne doivent pas être dévoilées, et nous nous posons la question pourquoi il y a des choses qui ne devraient pas être dévoilées à l'attention de la population. Là, ça pose problème. Donc nous pensons que si les choses sont claires, si l'accord est signé pour l'intérêt de la population, il ne devrait pas y avoir des choses qu'on cacherait à la population ou on cacherait à l'Assemblée nationale. Et donc nous pensons que là, effectivement, ça pose des problèmes et il y a lieu que nous puissions nous inquiéter quant à l'avenir de cet accord si les bénéficiaires seraient un groupe d'individus ou certaines personnalités qui ont eu à négocier cet accord. Il a parlé de certaines entreprises congolaises qui devaient être utilisées comme des entreprises de sous-traitance. Et là encore, je crois que nous devions voir clair, parce que nous savons que souvent, certains négociateurs qui ont leurs entreprises, ils vont prendre ces entreprises-là comme entreprises de sous-traitance. Voilà pourquoi nous disons qu'il était vraiment important que nous puissions, que le peuple soit informé du contenu et du contour de cet accord pour éviter effectivement les abus que nous avons connus par le passé. Je crois que nous allons même évoluer en termes de mise en application de cet accord parce que nous avons été informés de la construction des chemins de fer, construction des autoroutes, même dans certains endroits où nous pensons qu'aujourd'hui ce n'est pas une nécessité de construire par exemple une autoroute entre Lubumbashi et Kasumbalesa, alors que la route par exemple Kinshasa Kikwite est en très mauvais état. Je crois que là encore, il fallait associer soit l'Assemblée nationale ou d'autres structures pour voir quelles sont les priorités. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons comme priorité la construction d'autoroutes entre Lubumbashi et Kasumbalesa, d'autant plus que nous avons d'autres problèmes dont les fruits de cet accord pourraient aider à les réaliser. Et vous êtes sans ignorer aussi que il y a quelques années, l'EVA de la province de l'Équateur a contribué à la construction de l'union minière au Katanga. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des minéraux à Lubumbashi ou à la province orientale qu'il faut construire des routes seulement à Lubumbashi et à la province orientale.
Oui.
Nous devons aussi envisager à faire développer, à faire épanouir certaines provinces qui n'ont pas ces mêmes ressources. Donc je pense que l'affectation de ces ressources aussi pose des problèmes. Et je crois que c'est sur ces points que le gouvernement ne veut pas dévoiler certaines clauses.
Voilà, ça c'était José Ngbanda Mananga. Donc déjà vous exigez, vous souhaitez que l'affectation dans l'exécution des projets soit plus ou moins équilibrée, si on vous a bien compris. Plus de 6, c'est ça justement?
Oui, effectivement, parce que plus de 6 milliards. Mais comment voulez-vous, au lieu de réhabiliter les routes principales, comme j'ai donné l'exemple
oui, vous l'avez dit, oui.
De la route Kinshasa-Kikwite, on construirait une autoroute Lubumbashi-Kasumbalesa. Pourquoi? Pour faire faciliter l'évacuation des minéraux qui sont abusivement exploités à Lubumbashi, je crois que ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui,
il faut revoir les priorités.
Oui, ce n'est pas une priorité. Donc, la priorité serait de construire d'abord désenclaver certaines provinces qui sont enclavées parce que les routes ne sont pas en bon état.
Voilà.
L'Équateur, Bandundu, parce que hier, les gens de l'Équateur a contribué à la construction de l'Union minière du Haut-Katanga. Et donc, nous pensons aussi que les ressources de cet accord avec la Chine peuvent contribuer aussi à l'épanouissement de certaines provinces qui n'ont peut-être pas un séminaire.
Merci beaucoup, José Ngbanda. Plus de 6 milliards de dollars américains pour deux protocoles d'accord signés entre la Chine et la RDC. Que gagneront les deux pays, la Chine et la République démocratique du Congo? Nous en parlons dans la deuxième partie de ce dialogue entre Congolais. N'hésitez pas à réagir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h hors de Kinshasa au 099-999-222.
Plus de 6 milliards de dollars américains pour deux protocoles d'accord signés entre la Chine et la RDC. Que gagneront les deux pays, la Chine et la RDC? Les grandes lignes de ces protocoles d'accord avec notre confrère Jeff Ngoy qui a couvert la signature de ces protocoles entre les deux gouvernements.
La signature de ces protocoles d'accord ouvre la voie à l'exécution de plusieurs projets. Selon le ministre congolais des Travaux publics et infrastructures, Pierre Lungi, une route transnationale sera construite à partir de Boma pour relier Matadi, Kinshasa, Kipit, Kananga, Mbujima, Lubao, Kasongo, Bukavu, Goma jusqu'à Kisangani. Un deuxième projet porte sur la construction de 3200 km de routes bitumées. Un autre concerne la réhabilitation de 450 km de la voirie urbaine à Kinshasa. La construction de 31 hôpitaux de 150 lits sur toutes les l'étendue nationale, deux universités modernes, 5000 logements sociaux. La finition de la construction de l'hôpital central du camp Kokolo en face de la base logistique et bâtiment communément appelé Kowet City à Kinshasa. Au Katanga, une autoroute reliant Kasumbalesa, Lubumbashi, Kipushi et Likasi sera construite. Le premier lot de cette chaussée a une durée estimée à 36 mois. Dans le cadre ferroviaire, 3500 km de chemin de fer seront réhabilités. En contrepartie, les Chinois vont exploiter les ressources minières et se faire remboursé à travers le système de payage routier.
Voilà. Monsieur le ministre, les Chinois vont être remboursés par le péage et puis l'exploitation des ressources minières. Monsieur le ministre, c'est un prêt ou un troc ou un don? Pierre Lombi.
Écoutez, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que nous avons construit un modèle. Un modèle qui est adapté à notre contexte. Nous n'avons pas inventé ce modèle parce que nous nous sommes inspirés de ce qui existe ailleurs. Un modèle
qui existe où?
En Angola, en Algérie, au Gabon, où d'ailleurs les Chinois sont en train de construire un chemin de fer contre les minéraux de fer, les concessions de minéraux de fer, au Soudan, au Congo-Brazza. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Nous nous inspirons de ce qui se passe ailleurs en Afrique. Ce modèle est un modèle qui nous permet de pouvoir valoriser nos ressources naturelles, et en l'occurrence, les ressources minières,
C'est quoi exactement ces ressources
minérales? Ça veut dire que...
C'est le pétrole, c'est le...
Non, c'est les... Dans un premier temps, c'est les minéraux, c'est-à-dire les métaux de base dont la Chine a besoin. Nous avons besoin d'infrastructures. La Chine a besoin des métaux de base. Nous mettons ensemble pour exploiter les métaux de base, générer des ressources qui vont à la fois payer les investissements, rembourser les investissements en ce qui concerne l'exploitation minière, mais en même temps rembourser aussi tout ce que nous avons pu consommer pour construire les infrastructures de base.
C'est un troc ou c'est...
C'est un troc, c'est un modèle. Ce n'est pas un prêt, parce que nous ne pouvons pas prendre un prêt. Prendre un prêt pourrait hypothéquer les engagements que nous prenons avec la Banque mondiale et avec le Fonds monétaire international. Donc nous avons construit un modèle simple. Ça veut dire, les entreprises chinoises, qui sont des entreprises soit minières, soit des entreprises de travaux publics, qui sont intéressés et qui remplissent les critères pour être impliqués dans l'exploitation minière, avec la GECAMIL ou avec la MIBA, parce que c'est de cela qu'il s'agit.
La GECAMIL et la MIBA,
hein, se mettent ensemble, créent des sociétés de joint venture, et ces sociétés de joint venture bénéficient des crédits. Ce n'est pas l'État congolais qui bénéficie directement de ces crédits-là.
C'est quoi les joint ventures pour que les auditeurs comprennent?
Ben, c'est les partenariats, c'est tout simplement que on ne va pas céder nos concessions minières, mais on va les exploiter ensemble avec d'autres sociétés, des sociétés en l'occurrence chinoises.
Oui. Juste à ce niveau-là, je vais d'abord on va voir la réaction de José Ngbanda, qui est député national de l'opposition et rapporteur adjoint de la commission relations extérieures à l'Assemblée nationale. Et José Ngbanda, votre réaction juste à ce niveau-là, à l'explication qu'on vient de donner le ministre hein, sur ce partenariat, comment ça va fonctionner?
Non, je dis que lorsque le ministre dit que l'État congolais ne sera pas impliqué, non, je crois que ce n'est pas vrai, parce que le joint venture, je crois que là, l'État y est impliqué parce que l'État a des participations et nous connaissons, je crois que il nous a toujours été fait état de la gestion calamiteuse de l'AMIBA aujourd'hui, qui n'est pas non plus une société aujourd'hui à gestion à 100% de l'État congolais, mais dont les rapports n'est pas toujours clair. Et c'est là aussi notre inquiétude, parce que l'État qui aura une mainmise aussi dans cette joint venture, je crois que là nous craignons qu'au lieu que tout ce qui sera mis comme argent puisse bénéficier à l'État congolais ou à la population congolaise, pourrait, comme aujourd'hui, bénéficier à certains individus. Disons, je crois que rien ne nous rassure que les rêves que nous fait le gouvernement ou les ministres pourraient se transformer en réalité, connaissant ce qui se passe aujourd'hui. Donc,
sur quoi précisément, José Ngbanda, sur quoi précisément, quand vous dites que rien ne vous rassure, à partir de ce que le ministre a dit dans ce partenariat, sur quoi exactement? Parce que le ministre va réagir, bien sûr.
Parce que je crois, disons, comme nous n'avons pas l'accord pour savoir qui va gérer ce joint venture, est-ce que c'est la partie congolaise ou la partie chinoise? Parce que si c'est la partie congolaise, là, il y a des inquiétudes.
Ouais, on pose directement la question à M. le ministre, qui va gérer ce partenariat, la RDC ou la Chine?
Écoutez, un partenariat, c'est quoi? Un partenariat, c'est que il y a une partie qui est majoritaire et une partie qui est minoritaire.
Et c'est qui est majoritaire?
C'est la partie chinoise qui va être majoritaire. La partie congolaise, à travers l'entreprise minière, qu'elle soit la GECAMIL ou qu'elle soit la MIBA, va être minoritaire. Il ne s'agit pas ici de se poser des questions sur la gestion de la GECAMIL ou de la MIBA, mais non, c'est la société de joint venture de partenariat qui va gérer avec cette majorité chinoise. Et vous pensez que les Chinois vont investir ici 8 milliards, et en plus, je vous dis tout de suite, il ne s'agit pas simplement de cet accord, puisque le 11 du mois d'octobre, nous allons signer un deuxième accord avec la plus grande banque chinoise, la CDB Bank, la China Development Bank, qui a un capital supérieur à celui de la Banque mondiale. Donc vous croyez que ces banques-là, que le gouvernement chinois vont investir tant de milliards pour les voir gaspiller? Nous avons pris toutes les précautions afin que cette fois-ci, la gestion de ces fonds-là puisse se faire dans les normes et dans la dignité. C'est important, c'est clair, c'est précis.
Voilà. Juste sur la gestion, professeur Donatien Kabanga, partenariat Chine-RDC, la Chine sera majoritaire, comme l'a dit le ministre des Travaux publics Pierre Lumbi. Votre réaction là-dessus?
Oui, quand on parle de joint venture, à ma connaissance, donc c'est un partenariat où on fait le 50-50, donc il n'y a pas. Donc.
C'est 50%,
50%. 50%. Aussi, j'aimerais revenir rapidement sur un point. C'est au niveau du prêt. Son Excellence, vous dites que ce n'est pas un prêt, mais j'aimerais rectifier un tout petit peu là-dessus. Quand il y a un accord bilatéral qui engage deux parties, c'est-à-dire la partie chinoise et la partie congolaise, il y a, d'une manière ou d'une autre, un remboursement. Donc, nous devons rembourser en nature, c'est-à-dire le minerai. Il s'agit bel et bien d'un prêt. Donc, ce côté-là, mais c'est un prêt qui prend peut-être une autre forme. Mais le fait que nous remboursons en utilisant nos minerais, c'est un remboursement. Alors, en ce moment-là, c'est un prêt qui entre peut-être dans un autre contexte.
Voilà.
Ce n'est pas un prêt quand c'est gratuitement donné. Donc, il y a une contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt. L'intérêt, c'est nos minéraux que la partie chinoise va exploiter. Alors, en termes économiques, les termes qu'il faut utiliser, donc on ne peut pas mâcher les mots, c'est un prêt. Oui. Qui entre peut-être dans d'autres contextes.
Voilà.
Mais là, je serais d'accord.
Oui, je
n'ai pas dit qu'il ne s'agissait pas d'un prêt. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un prêt à l'endroit du gouvernement ou de l'État congolais. C'est un prêt qui s'est fait dans le cadre d'un modèle où une entreprise reçoit ce prix-là. Ce prêt est octroyé à une entreprise et c'est cette entreprise-là qui doit rembourser.
Dans le cas précis, vous avez parlé de la MIBA, entre autres, et la GKMIBA.
Non. La MIBA ne reçoit pas un crédit, il ne peut pas recevoir ce crédit-là. De toutes les façons, il n'a pas la crédibilité nécessaire auprès de banques chinoises. Mais c'est la société de joint venture, avec la garantie de l'entreprise chinoise qui va être impliquée dans l'opération, qu'on octroie les crédits. Et c'est cette entreprise-là qui est donc appelée à rembourser à travers les recettes de la société de joint venture. Et donc ce n'est pas, je dis bien que c'est un prêt, comme il l'a dit le professeur, a raison, mais ce n'est pas un prêt à l'État congolais.
Et ça va prendre combien de temps, ce partenariat va prendre combien de temps?
Écoutez, ça ce sont des modalités techniques dont on est, parce que c'est effectivement des choses qui se font à des niveaux, à différents niveaux. C'est un accord cadre que nous avons signé. Vous comprendrez que la GKMINE, puisque cette société-là, devront se mettre d'accord pour effectivement établir cette société-là et ils vont négocier des conditions, nous avons donné les orientations, mais il ne s'agira pas à l'État congolais de remplacer, de prendre la place des sociétés minières. Donc c'est important de pouvoir le savoir.
Et un mot avec le professeur.
Oui, si vous voulez, son Excellence, il y a une bonne partie du montant qui sera investi dans des infrastructures. On est d'accord. Quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un ou bien une institution qui va être considérée comme étant le garant. Et celui qui a signé cet accord, c'est vous le ministre. C'est en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, vous engagez le gouvernement, vous engagez le pays. C'est peut-être ces explications-là, on dit que ce n'est pas le gouvernement, ce sont des entreprises. Quelle entreprise? C'est là où se trouve le point de discorde, c'est là où il se trouve peut-être une ambiguïté qu'il faudra peut-être éclairer l'opinion.
La volonté du gouvernement congolais, la volonté du gouvernement chinois, parce que j'ai aussi rencontré des ministres du gouvernement chinois. La volonté du gouvernement congolais, c'est de pouvoir soutenir ces montages. Donc le gouvernement congolais et le gouvernement chinois soutiennent ces montages de leurs institutions. Mais en ce qui concerne le prêt, celui qui va être l'emprunteur, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État congolais.
Ce sont les entreprises qui vont être créées.
C'est les entreprises qui vont être créées, mais garanties aussi par les entreprises chinoises, parce que les entreprises chinoises sont crédibles auprès de leurs institutions. Donc c'est très très important de le savoir.
Voilà.
Il ne faut pas dire que le prêt a été donné, octroyé à l'État congolais. C'est un modèle qui est nouveau, ça dérange un peu, parce que, effectivement, compte tenu de la situation qui est la nôtre, il fallait un peu d'imagination pour trouver une voie de sortie.
Donc la RDC ne tourne pas le dos à d'autres bailleurs habituels.
Nous ne tournons pas,
la Banque mondiale,
nous ne tournons pas le dos. Nous disons tout simplement, dans la situation qui est la nôtre, rester enfermé dans des modèles qui ne marchent plus, c'est se suicider. Ce modèle est un modèle qui transcende effectivement tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, mais c'est un modèle qui n'est pas non plus exclusif. Nous ne disons pas que avec ce modèle, nous excluons, nous ne voulons plus d'autres partenariats. Non, nous allons continuer avec d'autres partenariats, mais attention, pourquoi est-ce que nous avons évité? Parce que, pourquoi est-ce que nous avons évité qu'il y ait un prêt à l'endroit de l'État congolais? Justement pour ne pas gêner des partenariats comme ceux de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et de l'Union européenne.
Voilà, là on a compris.
C'est important de le savoir. Non, non, je voudrais vous dire aussi une petite chose pour vraiment bien vous
ajouter cette chose.
Oui. La chose suivante, c'est que je vous ai dit qu'on s'est inspiré de plusieurs pays.
Vous avez cité l'Angola.
J'ai cité l'Angola. Là, au niveau de l'Angola, l'emprunteur, c'est l'État angolais. Pourquoi l'emprunteur est l'État angolais? Parce que l'État angolais n'a pas des obligations vis-à-vis de la Banque mondiale et vis-à-vis du Fonds monétaire. Ils ne sont pas. Par contre, au niveau du modèle gabonais, ce sont les entreprises qui empruntent et non pas l'État gabonais.
Donc, dans le cas de la RDC, vous avez imité le modèle
nous
gabonais.
Nous avons opté pour ce modèle-là pour échapper effectivement, pour ne pas énerver les engagements que nous avons pris ou que nous avons avec nos partenaires classiques.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Travaux publics, Pierre Lumbi. Nous accueillons Claude Kianza pour les réactions des auditeurs. Claude.
Carlos Moutela de Kikwito Bandundu veut connaître quand la RDC va sortir de la crise, car d'après lui, ce n'est pas la première fois que la RDC signe de protocoles d'accord. Dans le même sens, Mumbere de Goma au Nord Kivu veut aussi connaître les précautions prises par le gouvernement congolais pour que ces protocoles d'accord ne soient pas un énième accord infructueux pour la RDC. Pour Sabin Sabiti de Kindu au Maniema, en RDC selon lui, il n'y a de la place que pour ceux qui participent à son développement et non plus pour ceux qui cherchent à piller seulement ses ressources. Tandis que pour sa part, Jean Voulengui de Goma, toujours au Nord Kivu, pense que l'accord entre la RDC et la Chine est un exemple pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui dépensent plus dans des formalités que dans des actions concrètes. Enfin, Philippe Maseka de Colesio Katanga veut savoir pourquoi le Fonds monétaire international voudrait avoir à tout prix une copie de ces protocoles d'accord. Que le gouvernement congolais nous clarifie là-dessus.
Merci Claude Kianza. Alors, monsieur le député national, José Ngbanda, vous êtes rapporteur adjoint de la commission relations extérieures de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ces auditeurs, le cas de Jean Voulengui de Goma, qui pense que l'accord entre la Chine et la RDC est un exemple pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui d'après lui dépense plus dans les formalités que dans les actions concrètes?
Disons, je crois que l'auditeur parle plus en termes d'espérance que cet accord pourrait apporter un plus dans le développement de notre pays, ce que nous souhaitons tous. Mais ce que peut-être il ignore, c'est que s'il y a dans cet accord des clauses léonines, les mêmes inquiétudes vont subsister, comme l'a dit aussi l'auditeur de Kikwit et tant d'autres. Donc notre souhait est que cet accord soit effectivement bien exécutée, et comme l'explique le ministre, qu'il n'y ait pas de problème demain pour que la République démocratique du Congo ne puisse plus se retrouver comme après la Deuxième République avec 14 milliards à payer. Quand bien même il dit que bon, ce n'est pas la République démocratique du Congo n'est pas en prêteur, au même moment c'est lui qui a signé cet accord, et demain si les joint ventures a créé que ces entreprises ne trouvent plus de minerais à exploiter, je crois que l'État va venir en garantie pour trouver d'autres concessions à mettre à la disposition de la Chine pour qu'elle exploite. Donc je crois que nos inquiétudes demeurent jusqu'à à preuve du contraire lorsque nous verrons les choses se transformer en réalité au profit de la RDC.
Oui, je vais vous demander d'être de plus en plus concis parce que nous sommes à 4 minutes de la fin de cette émission. Comment vous réagissez, vous aussi, professeur Donatien Kabanga, de faculté catholique, vous êtes prof d'économie là-bas, avec ces auditeurs qui, comme Jean vous l'a dit, on sent qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à la place de la Banque mondiale, du FMI.
Oui,
qu'est-ce qu'il y a à craindre en signant, lorsque la RDC signe ce genre de protocole avec la Chine? Est-ce qu'il y a à craindre dans les rapports habituels avec les
Il y a d'un côté à craindre, et de l'autre côté il n'y a pas à craindre, comme son Excellence venait de le préciser, qu'il ne s'agit pas d'un prêt qui est accordé directement au gouvernement, si je peux le croire sur parole, et c'est plutôt accordé aux entreprises qui vont co-gérer en quelque sorte le projet. Bon, si je me situe à ce niveau-là, mes inquiétudes restent. Nous connaissons au Congo, il y a certains auditeurs qui ont mis l'accent sur cela, c'est dans le choix des animateurs de ces projets-là.
Merci.
C'est là où réside le grand problème.
Okay.
Le choix de ces animateurs.
Voilà. On va terminer par vous, monsieur le ministre d'État des Travaux publics et Infrastructures, avec ces deux questions. On a Carlos, Mumbere de Goma. Il veut connaître les précautions prises par le gouvernement pour que ces protocoles d'accord ne soient pas un énième accord infructueux pour la RDC. Votre réponse, monsieur le ministre Pialombi.
Écoutez. D'abord, il y a une volonté claire de la part du chef de l'État, de la part du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement de pouvoir encadrer cet accord jusqu'à son aboutissement. Deuxièmement, je pense que maintenant, nous devons sortir du cycle de deuil. Nous avons commencé le deuil et les lamentations depuis la conférence nationale où, effectivement, nous sommes en train de nous lamenter, de pleurnicher. Maintenant, il faut arrêter. Le moment est venu de commencer à reconstruire. Mais allons-nous reconstruire avec quoi? Avec ce que nous avons, pas avec ce que nous n'avons pas.
Oui.
Les moyens financiers, nous ne les avons pas. Nous avons les ressources naturelles. Et c'est sur cette base-là que nous devons reconstruire. Et nous devons reprendre espoir et espérance.
Il y a une dernière question avec Philippe Masseka de Colisio Katanga qui veut savoir pourquoi le FMI voudrait avoir une copie des protocoles d'accord. Est-ce que vous pouvez lui donner une réponse?
Mais écoutez, c'est pour répondre de façon globale, y compris à l'honorable José Nguanda. Nous disons, nous ne savons pas, moi je n'ai pas information, connaissance, que la Banque mondiale vais avoir ce rapport.
C'est une copie du protocole d'accord.
De l'accord. Mais moi, je me conforme aux règles de mon pays. Tant que cet accord n'est pas encore passé au niveau du Conseil des ministres, tant que cet accord n'est pas passé à l'Assemblée nationale, au Parlement, je ne me trouve pas dans la position de pouvoir divulguer toutes les clauses. Par contre, pour la transparence au niveau de notre opinion, nous avons donné l'essentiel de cet accord.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est la fin de ce dialogue entre Congolais. Cette émission a été mise en onde par Jean-Claude Nsiala, réalisée par Nadine Foula. Claude Kianza l'a préparée. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon suivi de programme sur Radio Okapi. Thank you.